Il est 18h à Niamey, tout de suite le journal en français de Studio Kalangou au micro à Taher Rafika. Au sommaire de cette édition, stopper les investissements des biens détournés du Niger au Nigeria et vice-versa. C'est l'entente à laquelle sont parvenus ce matin à Niamey la Halcia et son équivalent de la République fédérale du Niger, la Commission de lutte contre les crimes économiques et financiers, précision dans un instant. Les origines de l'insécurité au Sahel. Repensons au fondement d'une paix durable, une thématique débattue aujourd'hui à la faculté des lettres de l'université Abdou Moumouni en cette journée de l'étudiant en philosophie. Les propos du conférencier dans ce journal. Comment procéder pour conserver les produits maraîchers disponibles en grande quantité en cette période au Niger? Un spécialiste donnera l'astuce dans le magazine de cette édition. Lutter efficacement contre la corruption, c'est le but du protocole d'entente signé ce matin à Niamey entre la Haute Autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées du Niger et la Commission de lutte contre les crimes économiques et financiers du Nigeria. Selon Dr Munkaila Aïcha Tousseini, commissaire à la Halcia, ce protocole a été initié pour freiner les investissements des biens détournés d'un pays vers l'autre. Écoutons-la au micro de Habibou Garba.
Dans les deux pays, on a constaté qu'il y a des gens qui détournent l'argent du Nigeria et qui viennent investir au Niger tranquillement, tout comme il y a des citoyens nigériens qui volent l'argent du Niger pour aller s'installer tranquillement au Nigeria. Voilà pourquoi les deux institutions nationales de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ont jugé nécessaire de signer ce protocole d'entente pour un travail en synergie. Parce que, comme vous le savez, la corruption est un monstre qui a des ramifications dans plusieurs pays. Le Niger et le Nigeria étant des pays frontaliers, il est nécessaire pour les deux pays de conjuguer leurs efforts pour combattre ensemble la corruption et les infractions assimilées.
La douane d'Arlit a saisi le 27 janvier 145 kg de chanvre indien dissimulé dans une camionnette en provenance de Niamey. Constatant que la contexture des colis est différente, un agent des douanes en service a insisté pour l'ouverture du contenu, découvrant ainsi le pot aux roses. Le chef du bureau de la douane d'Arlit, colonel Adamou Abdouzaroumé.
L'équipe de permanence du bureau des douanes d'Arlit a constaté sur une camionnette qui venait de Niamey qu'il y avait des colis dont la contexture était différente de celle des autres colis qui étaient dans le camion. L'agent a ainsi constaté ce qu'il y a dedans et c'est en ce moment qu'il a constaté que c'était du chanvre indien et non pas des chaussures telles que déclarées par le propriétaire des marchandises. Voilà ce qui a fait que cet agent-là a pu mettre la main sur cette quantité énorme de chanvre indien.
4 morts, une femme, ses 2 filles et une vieille ainsi que 2 blessés. C'est le macabre bilan d'un incendie qui a ravagé cette case hier au petit matin au quartier Kwarkana nord de Niamey. Selon le lieutenant-colonel Sidi Mohamed, commandant du groupement des sapeurs-pompiers, une enquête est en cours afin de déterminer les causes réelles de l'incendie tout en appelant à la vigilance.
C'est un départ de feu concernant plusieurs cases. Ces habitations abritent en réalité des réfugiés maliens. Ces habitations sont d'abord à base d'aliments pour le feu, en ce sens qu'ils sont constitués de paille et de carton. Le départ du feu a eu lieu aux environs de 6 heures, une heure où les gens dormaient, où ils ne sont pas vigilants. Malheureusement, le bilan il est très lourd. 4 décédés, des femmes et des enfants. De vieilles femmes qui ne peuvent pas se soustraire d'elles-mêmes et des enfants qui sont dans l'incapacité de se soustraire de ce feu. Le conseil que nous lançons à l'endroit de nos concitoyens, c'est de faire extrêmement attention avec le feu. Le feu est nécessaire et important en ce sens qu'il nous sert à nous réchauffer, qu'il sert à préparer et il peut devenir extrêmement dangereux lorsqu'il échappe au contrôle de l'homme.
Propos recueillis par Adama Dawaki. Les origines de l'insécurité au Sahel, repensons aux fondements d'une paix durable. C'est le thème choisi par les étudiants en philosophie de l'université Abdou Moumouni de Niamey pour la journée de l'étudiant en philosophie, aujourd'hui dans l'enceinte de la faculté des lettres. Pour le conférencier, la malgouvernance est l'une des raisons de l'insécurité au Sahel. Docteur Bounti Diallo, interrogé par Rukayat Abdraman.
La première des raisons, je pense que c'est la malgouvernance de nos pays. Malgouvernance s'étend aussi bien à l'économie, à la justice, qu'à l'abandon même d'un certain nombre de portions de territoire par l'autorité de l'État. Je pense que tous ces facteurs-là ont fait que, à certains moments, des zones de non-droit se sont érigées. Ces zones-là ont permis un certain nombre de trafics qui aujourd'hui se retournent contre nous. Il est nécessaire que les États se réapproprient de l'espace, que les États fassent en sorte que la bonne gouvernance ne soit pas un simple slogan, mais que ce soit une réalité. À partir de ce moment-là, je pense que le reste va suivre. Et il est clair que s'il n'y a pas de développement, quelle que soit la bonne volonté de nos États, il est impossible en tout cas de ramener la paix. Je pense que c'est un thème qui nous concerne tous, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes tous sous le joug en tout cas d'une peur, d'un attentat terroriste, quel que soit l'espace dans lequel nous nous retrouvons.
55 écoles primaires et 19 établissements secondaires, dont 62 à Niamey, ne respectent pas les normes réglementaires et environnementales. C'est le constat d'une inspection menée sur l'ensemble du territoire national qui a donné l'opportunité à la tutelle des écoles de demander aux responsables épinglés de se conformer dans un délai de 8 mois. Le président de l'Association des promoteurs des écoles privées du Niger apprécie cette décision des ministères en charge de l'éducation primaire et secondaire. Dandakoy Amadou Djibo au micro de Gungu Mahamad Dantani.
C'est à l'école qu'on forge la personnalité de l'homme de demain. Il y a beaucoup d'écoles privées qui se créent n'importe comment. Chacun ouvre un kiosque et puis il appelle ça école privée sans aucune qualité et sans aucun respect des normes réglementaires et environnementales qu'exige la profession enseignante. Et la décision qui a été prise, c'est que les écoles qui ne sont pas du tout en règle vont être fermées. C'est déjà fait pour certains. Ceux qui sont dans les villas et ont eu un délai de 7 mois jusqu'en août pour chercher des terrains adéquats pour implanter leur école. Passé ces délais, des mesures énergiques vont être prises à leur encontre. Voilà les décisions qui ont été prises hier au cours de notre rencontre.
Toujours dans le secteur éducatif, 80 000 francs CFA, c'est le montant investi en janvier dans l'achat de la craie par le comité de gestion des établissements scolaires de l'école Angela Markel de Goudel à Niamey, déclare le président de l'association des parents d'élèves. Une école qui manque de matériel didactique depuis le début de l'année scolaire 2018-2019, a-t-il précisé. Le président Mokhtar Moumouni au micro de Habib Garba.
Nous, au niveau de l'école Angela Markel, la directrice m'a appelé. Elle me disait que, ah, monsieur le président, vraiment, il y a un problème. Que vraiment, même créé pour écrire au tableau, nous n'avons pas dans cette école. Ce jour-là, pour les matériels de l'éducation, pour les enseignants, on a pu consommer au moins 80 000 pour acheter une boîte de craie pour une classe. Nous avons 13 classes. Et aujourd'hui, ces boîtes de craie-là sont déjà finies parce que ça fait maintenant, moi, c'est 20 jours de cela. Je me disais que les autorités, ils ont dit qu'ils vont amener les matériels de l'école. Mais jusque-là, ils n'ont pas amené. Aujourd'hui, on est en février. Le COGES, là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer les parents d'élèves à amener les 1000 francs.
Les responsables de l'école Angela Markel reconnaissent cette situation, mais hors micro. Football. À Maradi, footballeurs et encadreurs des équipes du Ghana, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal souhaitent des améliorations dans la restauration et l'hébergement. Ces équipes de la poule B sont dans des hôtels à Maradi dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans. Suivant leurs différentes réactions au micro de Mohamed Maman.
Les chambres sont correctes. C'est vrai que les responsables auraient voulu avoir des images plus nettes des chaînes de télévision. Il y a des réglages à faire. Les menus sont choisis par les médecins. Mais il faut dire que les restaurateurs n'ont pas l'expérience requise. Mais nous sommes tous des Sahéliens et les plats qui sont préparés sont des plats de chez nous. Et c'est vrai que la cuisson n'est pas faite comme chez nous, mais ce n'est pas le plus important.
Depuis qu'on est là, ce qu'on a remarqué, on pour le repas, c'est bon, il n'y a pas de souci. Même s'il y avait des petits problèmes au départ des repas, comme on n'avait pas donné notre menu, maintenant on a réglé ça. Mais au niveau des chambres, depuis qu'on est là, les chambres, jusqu'à présent, ça n'a pas encore été nettoyé.
Troisième et dernière journée demain vendredi des matchs de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 20 ans U20. La poule A qui évolue à Niamey verra le derby Niger-Nigeria, décisif pour le Niger en tant que pays hôte d'accéder en demi-finale. Les entraîneurs du Niger et du Nigeria, Soumaïla Tiemogo et Paul Aibobo, tous optimistes au micro de Soumana Amadou.
Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Pour jouer un match, c'est un travail qu'il faut en amont. Et je crois que ce travail a été fait et il ne reste qu'à le déballer sur le terrain. Impossible n'est pas nigérien. Nos joueurs sont conscients de l'enjeu. Nous allons tout mettre en œuvre, en tout cas pour battre cette équipe du Nigeria et arracher cette qualification.
De son côté, l'entraîneur nigérian reconnaît que le dernier match contre l'Afrique du Sud n'a pas été à la hauteur. Il sait bien que l'équipe nigérienne est une bonne équipe et qu'il est important de jouer contre une bonne équipe. L'option pour eux, c'est de remporter la victoire en gagnant ce match.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
En cette période au Niger, les marchés sont inondés de produits maraîchers, notamment l'oignon et la pomme de terre. Des produits à écouler rapidement pour éviter leur pourrissement, d'où la nécessité de techniques spécifiques pour échapper au gâchis. Entretien avec le spécialiste Abdoussalam Douma, interrogé par Rukayat Abdraman, c'est dans la partie magazine.
Les produits maraîchers sont périssables et difficilement conservables, raison pour laquelle l'oignon et la pomme de terre sont essentiellement conservés au Niger avec des techniques spécifiques selon le business manager de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, Abdoussalam Douma.
On arrive à conserver l'oignon et la pomme de terre qui sont beaucoup consommés au Niger et même au-delà. Et en termes de stratégie par rapport au l'oignon, nous avons construit des magasins. La plupart sont essentiellement sur la région de Tillabéri, notamment dans le département d'Ayourou, également dans le département de Terra, qui permet de conserver 50 tonnes d'oignons sur une période de 6 à 8 mois. Si vous voulez conserver de l'oignon, c'est qu'il faut déjà se préparer en amont. Il y a un itinéraire technique approprié donc qu'il faut suivre pour pouvoir conserver. Notamment, on utilise peu ou même pas d'engrais. Donc en ce moment, donc, on va avoir des bulbes qui ne sont pas gorgés d'eau, qui peuvent être aptes pour la conservation. Et même à la récolte, donc, il y a des techniques qu'il faut utiliser pour pouvoir conserver. Généralement, nous, on coupe les tiges, c'est-à-dire on les laisse avec. Et ça permet non seulement aux tiges de bien se fermer, et le fait qu'on a le feuillage qui reste aussi sur l'oignon, ça permet de créer un microclimat donc, qui permet en tout cas de stabiliser un peu la température pendant la conservation.
Et quelle est la stratégie que vous adoptez pour conserver la pomme de terre?
Nous avons construit des magasins réfrigérés, donc qui nous permet de conserver 400 tonnes. Essentiellement, Hamdallah est sur la zone de Douchi. C'est des climatiseurs qu'il y a dans ces magasins qui permettent en tout cas d'avoir des températures autour de 12, 13, 14 degrés. On peut conserver sur une période de 4 à 6 mois.
Avez-vous d'autres produits que vous utilisez pour la conservation de la pomme de terre?
Oui, au-delà de nos frigos, ce que nous disposons de l'huile de menthe qu'on utilise donc avec des diffuseurs pour pouvoir diffuser dans le magasin. Et ça permet d'inhiber la germination de la pomme de terre. On utilise aussi de l'eau de robinet dans des rigoles pour permettre de garder une certaine humidité dans le magasin. Et les autres cultures maraîchères, naturellement, si on a un marché assez porteur, on peut envisager également de conserver ces produits maraîchers, surtout qu'on a des frigos qui sont opérationnels. Et nous sommes en train de développer même la technologie pour aller maintenant au solaire. Et en ce moment, on peut minimiser en tout cas le coût de conservation. Ça nous coûte environ parfois 1 million par mois pour pouvoir conserver la pomme de terre. Donc, ce qui fait que naturellement, en conservant, donc on a des frais inertes, ce qui fait que la pomme de terre devient un peu chère après les 4 ou 5 mois.
C'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute dans un instant le forum du jour avec Mokhtar Hamadou et ses invités qui débattront sur les résultats globaux et définitifs de la campagne agro-silvopastorale 2018 au Niger. Analyse et recommandations. Bonne réception.